Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi.
Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou.
Je suis aux toilettes.
Oh, le con.
Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre.
30 secondes.
Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur.
Ça coûte... C'est marrant, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre?
J'ai pris le gros sel à la place du sucre, garçon.
Tu veux rentrer chez toi?
J'ai pas envie de
rentrer chez toi.
Je veux pas rentrer chez moi.
Il est parti.
C'est la catastrophe.
J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles.
3...
Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Ondes Podcast, le podcast qui débriefe Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français sur M6 tous les mercredis soirs et tous les vendredis matins dans vos écouteurs. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un 9e épisode. Déjà, cette saison passe si vite alors que pourtant elle est si ennuyeuse. Non, c'est fort, mais bon, c'est moins rigolo que les saisons précédentes, on va pas se mentir. Jusqu'à maintenant, je suis accompagné de mes deux acolytes favoris, préférés, réguliers si vous voulez, je n'ai même plus besoin de les présenter. Sébastien Polomeni, salut Seb, comment ça va?
Ben, ça va très bien, salut Raoul, bonjour Marco, bonjour à tous.
Et Marc Orfila est également avec nous, salut Marco.
Salut Raoul, salut tout le monde.
Marco qui tient à la connexion de son téléphone pour être là avec vous messieurs dames, c'est un exploit, on espère que tu vas rester avec nous jusqu'au bout de cette émission. Messieurs, une émission mercredi qui est, disons en demi-teinte, enfin moi j'ai envie de dire en demi-teinte parce qu'il y avait des choses sympas mais il y a quand même beaucoup de choses qui retombent un peu dans les travers habituels de la saison, on va en reparler. Une première épreuve anecdotique, une deuxième épreuve toujours sympathique grâce à notre ami Pierre Gagnère, une dernière chance sur une bouchée et un remaniement des brigades, c'est le programme de cet épisode. On a fait notre classement cette fois-ci, pas de tromperie sur la marchandise, on vous promettait un classement hebdomadaire, on ne l'a pas fait la semaine dernière, il est de retour avec quelques petits bouleversements, vous allez le voir. On se met un petit jingle messieurs et puis on se retrouve juste après pour parler de ça. Alors Ben m'a dit que j'en mettais un, il y en a un que je mettais plus, je ne sais pas c'est lequel, donc je vais en mettre un au pif et on verra bien.
La bagarre.
Ouais mais je crois que la bagarre malheureusement il se fait striker parce que j'ai utilisé une musique d'un groupe donc ça marche pas. Là je vais en mettre un, allez je mets celui-là, on va voir ce que ça donne.
Dragon Ball Z. Qui est Dragon Ball Z?
Si moi je fais tu vas te déchirer.
7 ans de Top Chef pour en arriver là.
Voilà.
Je suis décontenancé.
Un caca, un rouleau de papier toilette, des feuilles de papier toilette.
Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, la psychologie.
Eh ben, c'était le générique Paul Perret, Dragon Ball Z, bien sûr. Très bon générique. Alors, les gars, première épreuve de mercredi. Déjà... Première déception, moi je vais commencer par là, on sépare les candidats, les brigades en deux et tout le monde ne fera pas les deux épreuves comme c'était le cas il y a deux semaines, ce que j'avais beaucoup aimé. On en met la moitié sur la première épreuve avec deux chefs dont on découvre l'existence au début de l'émission, ce qui est plutôt rare vu que d'habitude dans le trailer on en fait des caisses. Et les autres ont la joie, le bonheur, le privilège, l'immense plaisir d'avoir l'épreuve de Pierre Gagnère. Déjà, Marco, première remarque, est-ce que toi aussi ça t'a un peu saoulé ce côté, on met tout le monde dans chacun en deux et puis tout le monde ne fera pas toute l'épreuve, toute l'émission?
Ça m'a pas saoulé, mais j'étais dégoûté pour les 4 qui se sont fait arnaquer. T'en as 5 qui vont avec un des chefs les plus prestigieux du monde et les 4 autres qui vont avec le 357e chef espagnol de la saison. ils se sont un peu fait arnaquer.
Seb, même question, même remarque que Marco?
Voilà, on discutait un petit peu avant l'émission. C'est vrai que, bon, après, les candidats doivent discuter entre eux. Ah, tu as fait quoi comme épreuve? Ah, ben nous, on a eu Pierre Gagnère. Ah ben nous on a fait cuire des fruits dans une coque. Donc c'est vrai que c'était pas top, surtout que bon, ça fait une semaine qu'ils nous teasent avec Pierre Gagnère. Ouais. L'émission commence et là, bam, t'as deux chefs, ni vu ni connu, qui débarquent. Bon, mais d'abord, il y a première épreuve avant de passer au plat de résistance.
Ouais, c'est vrai que, alors pour une fois, du coup, on avait la surprise des chefs invités, mais bon, c'était. Ouais, et puis alors encore une fois, voilà, encore une épreuve avec des fruits, des desserts. Alors c'était pas forcément des desserts, mais ils ont des trucs à faire cuire d'une manière différente et tout. En l'occurrence, c'était les chefs Edouard. Je sais même pas comment on le dit, ils l'ont dit trois fois hier, j'ai même pas compris. Xatruche, je crois. Xatruche.
Chatruche. En catalan, ça se dit X. Ça
c'est du catalan en plus. Ouais. Donc, Édouard Chatruche et Oriol Castro, bon, ça c'est pas trop dur à dire, du restaurant Compartir et Disfrutar, qui doit vouloir dire, je ne sais pas.
C'est-à-dire partager et Disfrutar, c'est enjoy quoi.
Profiter.
Oh. Partager et profiter.
Putain, mais tu parles catalan, tu parles catalan
et
régulièrement.
Écoute, j'ai passé mon bac en catalan, donc j'ai appris le catalan à l'école, oui.
Attends, c'est exceptionnel. Et on est ici pour parler de Top Chef, donc on reviendra une prochaine fois sur cette anecdote. C'est exceptionnel. J'adore ce qui se passe. Seb, tu parles une langue inconnue, toi aussi, ou?
Non, le Marseillais.
Ouais, voilà. Je veux dire, il y a peut-être une langue dans le coin. Non, bon, très bien. Ok, eh ben écoute, Marco, je m'en souviendrai le jour où je reçois une traduction en catalan. Mais attends, t'aurais pu nous aider pendant la Airplace, là. Ils parlaient catalan, tous les streamers espagnols de mes... Bref. Donc, revenons à nos moutons. Les chefs Édouard Chatruche et Oriol Castro qui ont proposé aux candidats de cuire d'une manière originale un fruit. J'ai l'impression que c'est vu et revu, mais bon, et qui présenter un truc qui, oui, avait l'air sympa, de cuire dans la cendre, la mangue, derrière de faire leur petit volcan avec la mousse et tout. Maintenant, ma femme qui regardait avec moi, à cette réflexion que je trouve intéressante de dire, ouais, non, mais attends, moi, tu m'amènes ça au resto, ça me saoule. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est pas très, je trouve que c'est pas très user friendly, en tout cas, c'est
bien.
Voilà. C'est un peu comme quand ils livraient les trucs là, Meridio, la semaine dernière. Alors d'abord faites ci, puis faites ça, ensuite on ouvre, on verse le machin. Bon. Mais ça marche, ils ont un resto qui fonctionne comme ça, donc tant mieux pour eux. Et on avait quatre candidats, donc Sébastien, Lucie, Wilfried et Michael, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de dire que le perdant irait directement en dernière chance et affronterait le perdant de l'autre épreuve. On propose donc aux candidats de cuire d'une manière un peu particulière leurs fruits. On commence avec Sébastien qui fait un truc sur le papier qui avait l'air un peu compliqué et que je trouvais bien mieux au montage et à la réalisation et que j'aurais même bien aimé goûter. C'était une banane dans une croûte de miel qui faisait cuire à l'intérieur et un carpaccio de banane glacée avec, non bah c'était tout je crois, un peu d'oseille à l'intérieur aussi. Et ça rendait assez bien au visuel, je trouvais, Seb, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, au moment où il coule le miel, tu te dis, bon, ouais, je sais pas trop. Et au bout d'ouvrir ce truc, un peu comme un paquet de mouchoirs, limite, vous savez, là, une boîte de mouchoirs, vous ouvrez au-dessus, il coupe ses petites tranches, ça avait l'air joli et plutôt bon. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, c'est ça, visuel, j'ai l'impression que c'est une boîte de mouchoirs vue du dessus. Mais ouais, très intéressant, ça avait l'air hyper gourmand, entre le miel, la banane, le cuit... Il y avait le contraste de température, le contraste de texture. Ça avait l'air assez appétissant. Après, il est resté voilà, la banane, tout le monde connaît. Les autres ont été chercher un petit peu plus loin.
Ouais, c'est vrai. Maintenant, Marco, voilà, il finit à la troisième place. Alors que honnêtement, de toutes les cuissons qu'on a vues, moi, c'est peut-être celle qui m'a le plus... Enfin, qui était peut-être la plus originale.
Ouais, c'était la cuisson la plus originale. Même si, à un moment, je me suis demandé si j'avais bien entendu le thème de l'épreuve, parce que et le plat fait par les chefs, là, leur espèce de volcan. Alors moi, honnêtement, je sais pas si vous avez fait un bac S ou un truc comme ça. Moi, ça me fait penser au volcan que tu peux faire en TPE, là,
oui,
où tu mets du bicarbonate dessous, des je sais plus quoi, et ça fait tes petites bulles et tout. Et ça faisait très scolaire. C'était, enfin, moi, ça m'a fait rire. Et du coup, eux, c'était déjà dans une coque de... dans une croûte de sucre. Lui, c'était une croûte de miel. Finalement, tout le monde a fait des croûtes. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, en fait, l'épreuve, c'était cuisson en croûte. Mais j'ai dû mal entendre. J'ai entendu cuisson originale. Mais en fait, non, en regardant, c'était bien cuisson originale. Pour revenir sur Sébastien, ouais, c'était peut-être le plus original, son truc. Enfin, la promesse, en fait, de la manière dont dont il l'explique en disant que ça va faire une cuisson un peu à l'étuvée et tout, c'est plutôt séduisant. Après, franchement, moi, je te suis pas trop sur tout ce qui est le visuel.
Ah.
Alors, si ça vous est déjà arrivé, on dirait quand tu fais des lasagnes maison et que t'en mets trop, en fait, et genre à la fin, tu mets tes trucs et après, ça te déborde, ça dégueule
Ah,
quand tu
merde.
passes au four et tout, et ben, ça a exactement cette tête-là. Donc, moi, ça m'a rappelé les échecs lasagne. Et non, honnêtement, c'est pas très très fin le visuel qu'il faisait. Hein.
Non, c'est pas fin, effectivement, mais disons que l'idée de la croûte de miel qui a fait chauffer le truc, je trouvais ça cohérent et du coup ça me donnait envie de goûter. Le visuel, est, ouais voilà, c'est ça, le visuel me parlait. J'avais l'impression de comprendre ce qu'on pouvait y avoir, ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur en termes de goût. Voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai la photo sous les yeux. Je vois ce que tu veux dire avec les lasagnes qui débordent. Bon, c'est, il finit à la troisième place. Il méritait pas de finir dernier. Maintenant, voilà, il y avait d'autres trucs qui ont été un peu meilleurs. Tiens, commençons par Wilfried. Enfin, continuons avec Wilfried du coup, qui lui finit en dernière chance. Wilfried qui a tenté la stratégie qui marche bien d'habitude de faire ce que les chefs ont présenté comme exemple, mais qui l'a perdu. D'habitude, vous savez, l'an dernier, il y avait eu Thomas qui avait fait cuire ses gamberos rosso là, comme le chef André Léon, il avait gagné. Je sais plus qui d'autre qui avait fait comme le chef. Bon, bah, il avait gagné. Là, Wilfried, il tente une mangue en croûte de cendre avec un yaourt grec à l'ail noir, une sauce mangue miso avec moutarde et cacahuètes pour rappeler ses voyages, hein, comme pour les 8 émissions d'avant. 8 émissions, pardon. Les chefs disent que c'est bon, mais ils sont un peu moins emballés. Marco, il paye peut-être un manque d'originalité sur cette épreuve par rapport aux autres?
Moi, enfin, de la manière dont je l'ai ressenti, c'est pas ça. C'est plus le fait qu'il a mis son truc pimenté là, qui a tout défoncé,
Ah oui, bah bien sûr,
qui
la
a, qui a
fameuse, ouais.
et encore le fameux truc de mettre dans un pichet. Alors déjà,
Voilà.
quand il montrait son truc, je trouvais ça hyper beau. Tu sais, l'huile avec du coup le piment, et ça faisait comme une espèce de tache rougeâtre, un peu tache de sang là qui flottait. Je me suis dit, c'est dommage qu'il le mette dans un récipient opaque. Il aurait pu le mettre dans un récipient transparent, ça aurait été, enfin, c'était très très beau. Et encore une fois, ben, il en a mis une tonne, et donc du coup les chefs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils versent tout, et donc le truc il t'arrache la bouche, quoi. Et dommage, dommage, parce que c'était, enfin, ça avait l'air bon. Moi j'aime bien la mangue, enfin tout avait l'air bon dans son truc. Il avait repris son idée d'huile cendrée, etc.
Ouais.
Et ouais, dommage, dommage.
Seb, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce plat-là? Moi, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de la sauce où tu laisses le choix au chef et ils en mettent beaucoup trop à chaque fois, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est ce qui a tué on discutait hier sur notre chat. Pour moi, c'est ce qui a tué le plat. Parce que la mangue avait l'air super bonne avec les petites cacahuètes caramélisées.
Ouais.
La petite huile permet. Et le chef le met en garde. Lui dit, attention, ton huile elle est forte, n'en mets pas beaucoup. Forcément, tu laisses le choix au chef, lui, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'aurais fait comme lui, et pareil, hein, tu as ton récipient, mais tu vides tout.
Oui, bah
Et
oui.
forcément, c'est ce qui a emporté le goût de l'amande, et c'est sa dernière place est méritée.
Ouais, c'est vrai que bah voilà, malheureusement, il fait moins bien que les autres, il faut le reconnaître. Deuxième belle place de la part de Michael. Michael qui tente un concombre. Oui, le concombre est un fruit, messieurs, dames, comme la tomate est un fruit d'ailleurs, sachez-le. Donc un concombre cuit en croûte de sel au genévrier, un carpaccio d'agneau qui avait l'air très très bon et sur lequel les chefs sont revenus, un petit condiment vinaigre et une crème mentholée. C'est vrai que lui, il a fait un plat complet et pas juste le fruit, un peu comme Pascal d'ailleurs en deuxième épreuve, je trouve. Et voilà, les chefs ont défoncé l'assiette. Je l'aurais défoncé aussi, je pense que ça avait l'air super bon. Et Marco, ouais, c'est une vraie belle réussite cette épreuve de Michael.
Ouais. Moi, il était premier dans mon classement
Oui, bah
sur
chez
cette
tout le monde,
épreuve.
hein.
Ouais, mais pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que le choix du concombre, c'est assez couillu, parce que bah, c'est un truc qui a pas beaucoup de goût. Et tu vois, et moi j'aime bien toute la réflexion qu'il a derrière, de dire, bah, je vais enlever toute l'eau, comme ça va vraiment imprégner la chair du concombre. Enfin, en fait, j'aime bien le fait qu'il ait cette réflexion vraiment de cuisinier, de dire je mets pas juste des éléments ensemble qui sont bons et ça va faire un bon plat, mais de comprendre ce qu'il est en train de faire, je trouve ça hyper intéressant. Il s'est aussi démarqué parce que là où quand on te dit fais une cuisson originale sur un fruit, bah tu penses plus à un dessert, bah lui ça fait soit une entrée, soit un plat, tu vois, au choix, disons
Ouais.
un plat puisque t'as le carpaccio d'agneau. Et ouais, c'était hyper original, ça avait l'air vraiment bon. Et surtout, j'ai énormément aimé le fait que, enfin, en fait, toute son attitude quand on lui demande, t'as déjà fait ce type de cuisson, il dit non, non, mais jamais. Mais moi, je suis à Top Chef, j'aurais pas d'autre occasion, tu vois, de s'éclater, d'avoir autant de matériel à disposition, autant de trucs et de pouvoir tenter des trucs. Et donc, j'ai vraiment aimé ce qu'a montré Michael, donc numéro 1.
Seb, le maître de la cuisson est de retour.
Ouais, c'est ça, j'ai eu peur quand il commence à le présenter. J'ai dit, oh, ça sent le jinx à plein nez. Mais non, un plat hyper osé. Pour moi, c'est prise de risque maximale parce que bon, tu prends, donc, comme l'a dit Marco, le concombre qui n'a pas de goût, que tu as l'habitude de manger en vinaigrette, il le fait chaud. Et après, tu fais un carpaccio d'agneau. Donc l'agneau, en général, ça se fait pas en carpaccio, tu vas le manger plutôt. Lui, chaud, il le fait froid. Donc honnêtement, enfin, à goûter, pour moi, il était aussi numéro un chez moi.
Ouais, je pense que moi aussi, et pourtant l'agneau c'est une viande qui est forte et dont je suis pas particulièrement fan, mais là ouais, il y a un truc qui marche bien. Et alors le cas Lucie. Lucie, donc, qui pour la 7e fois en 9 épisodes passe à 2 doigts de la crise d'angoisse et qui a pas loin de rien sortir du tout, qui finalement, en fait, qui a une idée dès le départ, qui est une idée intéressante de dénoncer le manque de considération pour l'écologie, on va dire, via la consommation importante d'avocats dans nos régions. L'avocat qui est un fruit qui demande énormément d'eau, donc ce qui n'est pas très écologique, et qui en plus ne pousse pas trop en France, en tout cas à peine, ou alors c'est que vous avez beaucoup grugé, ce qui n'est pas bon non plus pour l'écologie, et donc qui a une empreinte carbone importante. Je comprends le principe de dire on utilise le plat pour dénoncer un truc et tout, donc on le fait dans une croûte de compost. C'est intéressant, c'est pas ce qu'il y a de plus ragoûtant, mais sur le papier, pourquoi pas, je connais pas. Maintenant, pourquoi est-ce que tu... Enfin, je trouve le discours trop contradictoire de dire on fait un truc écolo, mais on fait de l'avocat. C'est comme il y a David Galliani il y a 2 ans qui dit je dénonce la chasse en faisant un plat de chevreuil. Je dis mais mec, si tu dénonces, l'utilise pas. Pour moi, il y a un truc qui va pas du tout. Et alors, les chefs ont trouvé ça très bon, tant mieux. Moi, après, l'avocat, c'est bon, hein, on va pas se mentir. Mais elle, voilà, c'était l'avocat cuit à l'intérieur. Elle avait rajouté,
Un pot pourri.
ouais, un peu plein de choses. Je sais même plus ce qu'il y avait trop, mais enfin, elle aurait pu rajouter du compost pour ce que ça changeait. Et j'ai l'impression que les chefs la récompensent sur le message en disant ouais, c'était trop une bonne idée, ça marche trop bien, machin. Plus que sur le plat où ils avaient eu l'air complètement conquis par le plat de Michael. Voilà, j'ai un peu déçu de cette première place de Lucie. Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, bon, moi je la voyais numéro 2. Après, c'est quand même couillu d'avoir fait un avocat cuit. En général, c'est aussi pareil, tu le manges en vinaigrette. Donc, en dessert, encore plus. Bon, moi, j'ai des amis asiatiques qui le coupent en deux, ils mettent du sucre et ils le mangent comme ça. C'est vrai que ça m'a surpris la première fois,
Ah ouais?
mais pourquoi pas? Ah ouais. Et, mais pourquoi
Putain,
pas?
j'aurais pas pensé.
Ouais. Mais non, après, je pense que, comme à l'intérieur, elle a levé le noyau, donc elle a mis de la rose séchée, elle a mis des épluchures de pamplemousse, il me semble. Donc, je pense que ça a dû bien imprégner la chair et ça devait être assez rafraîchissant.
Ouais, non, mais sur le papier, c'est pas mauvais, je pense, mais ouais, mais il y a un truc qui me perturbait. Marco, qu'est-ce que t'en as pensé? Et Marco, qu'est-ce que t'as pensé aussi du coaching, du coup, de Glenn Vielle, qui a quand même été, je trouve, encore une fois, très, très important et réussi.
Ah, bah, tu me coupes l'herbe sur le pied, mais bravo
Allez.
à Glenville d'avoir gagné cette première place, parce que c'est un vol absolu. Bon, pour élaborer un peu plus,
Allez, vas-y.
je pense que c'est typiquement le type d'épreuve où là, ils donnent déjà leur desiderata en avance, parce que je pense pas que dans le garde-manger tu trouves de la croûte de compost, de la croûte de cendre et je sais pas quoi. Enfin, tu
C'est
vois,
sûr.
c'est clairement un truc où ils l'ont donné à l'avance. Donc, ça veut dire qu'à l'avance, elle s'est dit, ok, je vais faire ma croûte de compost, je vais le faire avec un avocat. Et en fait, et c'est peut-être pour ça qu'elle fait un mental, un nervous breakdown quand Glenville lui dit, mais meuf, ça va pas marcher ton truc avec l'avocat, la peau elle est tellement épaisse. Parce que je pense qu'elle avait prévu de faire ce truc et tout. Et du coup, Et du coup, je me dis, mais en fait, enfin, c'est quoi ce niveau de préparation quand tu fais un truc où, en fait, le chef, au premier coup d'œil, il fait, meuf, ça va pas marcher, en fait. Donc, déjà, là-dessus, je trouve ça. Je trouve qu'elle n'était pas préparée là-dessus et que c'est Glenville, en fait, qui lui sauve l'épreuve en lui disant, trouve autre chose. Alors, bravo à elle d'avoir trouvé. Et après, c'était pas non plus. Bon, c'est une bonne idée, quand même, la cuisson de l'intérieur. Faut dire qu'il fallait y penser. Mais quand même, en fait, de base, c'est Glenville qui sauve les meubles. Et en plus, en fait, je suis comme toi, Raoul. Je trouve que le message est complètement bullshit. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle s'est dit, faut créer une histoire autour du croûte de compost parce que c'est quelque chose d'un peu original. Et à côté, j'ai l'avocat. Ah oui, mais bon, l'avocat, ça va pas avec mon discours écolo. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'on nous embobine un peu une histoire en disant, ouais, comme ça fait une confrontation, machin. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois à 0%. J'y crois à 0%. Et enfin, mon dernier point, c'est que je trouve que l'association est un peu facile parce que c'est avocat chocolat blanc, c'est un truc hyper connu qui est pas quelque chose de révolutionnaire. Donc,
Hyper connu, je sais pas, mais il y a des petits champignons aussi.
Oui, mais la base tuile de chocolat blanc avocat, pour moi, c'est une association qui est connue, on sait que ça marche, et donc du coup. Et donc, du coup, c'est un vol. Voilà, j'aurais dit.
C'est un vol. Bon, Seb, juste sur Glenville, parce qu'on en a parlé un peu tous les deux avant l'émission aussi. Finalement, il a son propre coaching et il a les, enfin, disons qu'il est bon pour les candidats qu'il a aussi, quoi.
Voilà, c'est ça. Au début de saison, on avait peur qu'il rentre plus dans le registre de Philippe Etchebest, qu'il soit un peu rentré dedans avec les Angida, alors que pas du tout. Il est plus à l'écoute. Là, hier, c'était le rôle de grand frère. Les autres semaines, il a plus eu tendance à limite à donner ses directives pour que les candidats soient ses commis et exécutent ses ordres. Mais coaching sympa, ça diffère de Michel, ça diffère des autres. Il trouve bien sa place dans ce casting.
Ouais, bon, je suis d'accord aussi. Et voilà, encore une fois, bien sûr que je suis triste, et toujours, hein, même après 10 émissions, de plus avoir Michel Sarran. Mais je suis très content d'avoir Glenville. Il a été très bien casté. Voilà, c'était un très bon choix de la part de la prod. Il rentre, je trouve, dans les cases de ce qu'on n'avait pas encore eu jusque-là comme chef de brigade. Un peu, peut-être un peu. Je me souviens plus trop, mais est-ce qu'un Jean-François piège amélioré, c'est lui faire injure? Je me rends pas compte.
Ah non, 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 non.
Ah ouais?
Jean-François piège,
Piège,
non,
c'est.
Ah, il est mauvais.
Ouais, je me souviens plus bien, je vous avoue. En fait, j'ai des flashs de. Vous savez, ces moments où le candidat dit un truc. Ah ouais, en fait, je vais faire ça sur les conseils du chef. Et derrière, vous voyez le chef au ralenti qui hoche la tête. Vous savez, avec ce plan un peu en travelling, et le chef, ah, il a bien écouté mes conseils. Et la voix off dit ça pendant que le chef hoche la tête au ralenti. Alors, du coup, je revois des ralentis de Jean-François Piège qui sourit. J'avais oublié qu'il était méchant. Mais ouais, c'est
Tu
vrai, en fait.
vois, à la rigueur, pour ceux qui ont suivi les premières saisons, il est plus dans le registre de Thierry Marx, quoi. Même si
Ah
c'était pas,
ouais.
il y avait
Ouais, c'est
pas
vrai.
les brigades, mais il est plus dans ce registre-là, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, c'est un bon compliment, parce que Thierry Marx, c'est aussi un très grand chef. Mais voilà, très bien. Ok, bon, voilà. En tout cas, première épreuve qui voit Wilfried envoyé directement en dernière chance. En plus, on nous promet la dernière chance de l'enfer avec une bouchée seulement. Et à ce moment-là, on aurait pu voir venir que ça allait être Louise en dernière chance, puisque c'est souvent le chef de la brigade concernée qui doit faire la bouchée. Donc deuxième chance enfin, on nous l'a teasé pendant une semaine et tout le début de l'émission. Pierre Gagnaire est de retour. Alors oui, on en a fait des caisses. Maintenant, quel giga bro quand même. Le Pierre Gagnaire, chaque fois qu'il est là, enfin, moi j'ai un sourire tout le temps où on le voit à l'écran, tout le truc, même si le truc au début, il est tout seul sur la table avec la lumière, les cœurs Grégoire. C'est trop, mais c'est trop cool en vrai, Marco.
Ouais, alors oui, c'est trop sur la mise en scène, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est un
Bravo.
très bon jeu de mots.
Oui.
Mais c'est vrai que il attire vraiment une espèce de sympathie, de chaleur. Enfin, il a l'air trop gentil, il a l'air passionné par ce qu'il fait. C'est toujours bien. Puis moi, j'aime bien ces chefs qui s'impliquent et qui disent, je viens pas juste présenter mon produit, faire ma pub et après juger, mais il veut être là sur tout le truc pour suivre les candidats, pour leur donner des conseils et tout. C'est toujours agréable d'avoir Pierre Gagnaire.
Oui, d'autant que lui, en plus, c'est un habitué et je trouve sympa qu'il arrive au début en se disant, bon, après toutes ces épreuves et toutes ces émissions, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait à Top Chef? Eh ben moi, j'ai essayé de proposer un truc nouveau. Et là-dessus, c'est plutôt réussi. Le coup de la meringue salée, on l'avait jamais vu.
Non, pas évident à faire. En plus, bon, parce que bon, la meringue, ça doit être craquant. Donc, en fonction du plat que tu peux faire, si tu fais quelque chose de chaud, un bouillon, quoi que ce soit, donc ça peut te ramollir le truc. Donc, au final, tu vas bouffer du polystyrène.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce dont j'ai eu peur au début. Mais voilà, réussi. Et donc là, on a Thibaut, Arnaud, Pascal, Louise et Lilian qui sont les heureux élus pour participer à cette épreuve. C'est joli en plus le nom qu'il donne, le cristal de vent. Alors, je ne sais pas où il est allé le chercher parce que je vois pas vraiment le rapport. Enfin, si, à la rigueur, cristal parce que c'est croustillant et vent parce que c'est léger, peut-être, mais. Enfin, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est joli. Et comme tu dis, Marco, Pierre Gagnère, qui du coup remplace les chefs de brigade aux côtés des candidats pendant l'épreuve, avec les chefs de brigade qui regardent à côté, ce qui est plutôt rigolo aussi, ça donne quelques moments sympas. Et une épreuve qui rehausse un peu le niveau après la première. On va faire les candidats un par un. On va les faire. Bah, moi, je les ai dans l'ordre de passage à la télé. Donc, on va faire dans cet ordre-là. Thibaut, tout d'abord. Thibaut qui, lui, propose une meringue cacao champignon avec un condiment main de Bouddha ail noir et poudre de champignon. La main de Bouddha, j'ai toujours du mal à me rendre compte, même si ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Tu sais quel goût ça a, Seb? Ou peut-être Marco aussi. Mais Seb, tu vois ce que ça donne un peu la main de Bouddha en vrai?
Bah, la main de Bouddha, en fait, tu le râpes. En fait, il n'y a rien à l'intérieur si tu te sers des zestes. Donc,
Ah,
en fait,
ok.
c'est ouais, c'est une sorte de citron.
D'accord, ok, mais qui a rien à l'intérieur. Tu peux pas le
Ouais.
presser ou quoi. Ok, d'accord. Bon, et c'est quoi? C'est sucré, salé, c'est amer, doux?
Non, plutôt doux, ouais.
Ok, d'accord. Première présentation de Thibaut, qui voilà comme à chaque fois qu'il y a Pierre Gagnaire qui est là, fait le petit échange. Gagnaire qui vient, qui goûte son truc trop salé. Thibaut qui jusque-là, je trouve, était toujours pas blasé, mais était toujours un peu, même quand il était stressé ou sous le coup ou quoi, il était jamais trop expressif. Je le trouvais bien sûr sympa ou quoi, mais là vraiment, quand le Pierre Gagnard lui dit goûtez-la pour voir, là il fait des yeux genre oh putain, c'est trop salé, oh la vache, merde. Enfin, j'ai l'impression que Pierre Gagnard, il a provoqué un truc chez lui, comme chez les candidats de manière générale, et il se reprend bien et il remporte cette épreuve, Marco. Avec les compliments, de dire que ça pourrait être dans mon resto, de je sais pas quoi, le meilleur compliment de l'histoire qu'on nous avait teasé. Bon, est-ce qu'on nous l'a pas surteasé un peu, ce truc-là, Marco? Moi, je m'attendais limite à encore plus exceptionnel.
Ouais, c'est vrai. Après, honnêtement, moi, je regarde plus trop à la semaine prochaine,
Ah.
etc. Donc, je vois, je regarde vite fait qui vont être les chefs. Après, j'ai pas vu que je regarde pas non plus M6 beaucoup en dehors du Top Chef. J'ai pas non plus les spots publicitaires et tout. Donc, je l'avais pas trop vu. Je m'étais pas trop teasé là-dessus pour le coup. Mais après, le plat était hyper beau. Enfin, Thibaut
Oui.
accouche un peu de son potentiel, quoi. Ça m'a fait peur, son truc hyper salé. Et après, quand il dit, bon, c'est pas grave, j'en relance une que je sale pas et je mélange les deux, je me suis dit, ouh, ça fait un peu apprenti sorcier, je vois pas comment il va rattraper le truc. Et pouf, coup de cœur, commentaire dithyrambique de Pierre Gagnaire. Bah, bravo Thibaut, chapeau.
Seb, c'est exactement ce que dit Marco. Enfin, et même Darroze, elle le dit, hein, elle dit enfin, il montre ce dont il est capable, et je crois que c'est l'effet que ça nous a fait un peu à tous.
Ouais, c'est ça, ben voilà, c'est à peu près, je pense que c'est sa première épreuve en solo, hors dernière chance.
Je crois
Donc
aussi.
voilà, peut-être qu'il préfère cuisiner tout seul aussi, comme les autres. Hein. Tu vois, on a eu quand même, il y a eu Lilian cette saison, il y a eu Mickaël aussi, qui ont fait des super plats quand ils étaient tout seuls. Voilà, bon, maintenant on arrive dans la partie de saison où on va voir un peu plus les candidats cuisiner en individuel et plus trop en équipe, donc faut qu'ils nous montrent de quoi ils sont capables. On avait de hautes ambitions pour Thibaut en début de saison, et là il l'a prouvé sur le papier avec un super plat et bon choix d'assiette aussi qui faisait un truc très monochrome.
Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Bon, après, un podcast à l'audio, c'est dur de rendre compte de ce genre de truc si vous avez moins bien regardé que nous. Mais ouais, l'assiette était belle. Et tu sais, ouais, c'est marrant. Je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur le coup de. On a peur de manger du polystyrène. Pour le coup, le visuel était pas. Enfin, était pas exceptionnel ou quoi, mais en fait ça marchait bien. C'était sobre et on savait où ce qu'on allait manger, c'était efficace et au goût ça avait l'air très bon. Donc une belle réussite de la part de Thibaut, et je pense qu'effectivement quand t'es chef depuis quelques années seulement de ton petit resto et que Pierre Gagnard dit qu'il mettrait bien ton plat à sa carte, il y a difficilement meilleur compliment. Donc bravo à Thibaut pour enfin cette belle première réussite en solo. Deuxième candidat qu'on a vu, c'était Arnaud. Arnaud qui a une bonne idée, je trouve. Moi, elle me plaît bien sur le papier, de faire une tarte à l'oignon avec il y en avait deux, une avec des oignons, l'autre avec du thym et un petit lard de colonnata. Ça avait l'air bon et je trouve assez intelligent la manière dont il s'est ressaisi quand le chef Gagnère lui dit il faudrait qu'on retrouve ce petit côté fumé. Du coup, de rajouter du lard dedans, c'était une bonne idée aussi. Bon, voilà, alors après, c'est toujours pareil avec Arnaud, j'ai l'impression. On joue beaucoup sur ses émotions, sur son histoire avec sa maman décédée. Là, il nous fait chanter, bien sûr, on lui fait chanter Céline. Enfin, c'est sympa aussi. Et pour le coup, là, je trouve que ça faisait un ensemble un peu assez cohérent et pas trop lourd comme M6 aime bien faire parfois. C'est une belle épreuve, je trouve, de la part de Arnaud. Seb, je sais pas ce que t'en as pensé.
Ouais, très bien. J'ai bien aimé son, parce que c'est à peu près le seul qui a dû faire deux textures, non, hormis Lydia. Il a fait deux meringues différentes. Donc tu avais deux jeux de couleurs qui se prêtaient super bien. Son idée de revisiter la tarte à l'oignon aussi était sympa. J'ai eu peur avec le bouillon, mais finalement, ça s'est bien passé.
Ouais, ça marche bien. Et on va voir à la fin de l'émission que Arnaud est encore bas dans nos classements, mais c'est peut-être un peu d'appréhension de notre part du début de saison, alors qu'en fait, je trouve, depuis quelques épisodes, vraiment, il s'affirme un peu mieux comme cuisinier. Marco, qu'est-ce que tu as pensé de cette épreuve de Arnaud ?
Ouais, Arnaud, bah déjà, il est vraiment fort sympathique. Il passe bien à l'écran. Alors que d'habitude, c'est plutôt quelqu'un qui emmène les autres candidats. On disait, enfin, je me moquais un peu de lui en disant qu'il était plus coach que cuisinier sur certaines épreuves. Mais là, il avait plus du tout cette assurance et ce truc-là. Il était tout intimidé. On aurait dit un gosse devant le Père Noël et tout. C'était franchement assez touchant. Pareil, tu vois, son plat, c'est un truc réconfortant, quoi. La tarte à l'oignon. Ouais. Franchement, c'est une belle épreuve d'Arnaud. Comme tu le dis, je pense que le classement lui rend pas hommage. Et bon, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, c'est dur de le remonter parce que t'as pas l'impression qu'il est au-dessus des autres. Mais en fait, il est définitivement plus isolé isolé à l'arrière, tout seul, comme il l'était auparavant, quoi.
Il est en
puissance, il fait des plats de plus en plus beaux. Ça fait un paquet de temps qu'il n'a pas été en dernière chance. Ça fait plusieurs épreuves. La guerre des restos, alors il n'y avait pas de d'élimination, mais.
Il gagne.
Si je me trompe pas, ouais, il gagne. Il gagne la guerre des restos. Là, il se qualifie directement, donc 3e sur 5. Enfin, il est un petit peu en mode de croisière. C'est pas une tête d'affiche, mais c'est. C'est plus un boulet qu'on voit sortir à la prochaine émission. Quoi.
C'est ça, et en fait, en y repensant, bon, c'est facile avec le recul, hein, mais quand je regarde nos classements des épisodes précédents, il serait définitivement devant plein de gens qui sont encore là ou plus d'ailleurs, mais il serait certainement plus dernier au fur et à mesure. Bah, voilà, malheureusement pour lui, au fur et à mesure, les gens s'éliminent et on a du mal à le remonter au classement. On reviendra sur le classement à la fin de l'épisode. On continue, donc Arnaud qui finit 3e, on continue avec Pascal. Pascal, mon petit Pascal. Pascal, pas peur, Pascal qui se lance dans un plat complet, qui fait pas juste la meringue, mais qui décide de faire un plat autour. Donc il fait une meringue aux algues sèches, un filet de saumon mariné, snacké, qui avait l'air très réussi d'après Pierre Gagnère, et une petite purée avec une salade de fenouil. On me tensait la semaine dernière parce que je disais qu'il avait été essentiel au resto, et on m'avait répondu qu'il était essentiel pour ramasser les bouts de verre. Est-ce que quelqu'un ici se reconnaît ? Non ? Bon, peut-être que si, bref. Et là, voilà, en solo, il fait une vraie belle épreuve. Il a peut-être des moments où il manque pas peut-être un peu de créativité et d'originalité, mais franchement, ce qu'il a fait hier avait l'air très bien techniquement, et il arrive à choper une deuxième place. Voilà, Sébastien, on continue de compter sur Pascal semaine après semaine et pour l'instant, il n'a pas l'air trop en danger non plus.
Non, ça va, il a fait son taf. Bon, sur le visuel, c'était pas top, mais après, voilà, son idée était sympa. Filet de saumon, le chef lui fait la réflexion. Attention, ça risque de mouiller votre meringue, faites quelque chose. Il a trouvé son idée de croûte en herbe, justement, pour faire l'isolant. Ça a bien fonctionné. En plus, sa meringue, elle était super fine. Elle avait une espèce d'aspect nacré et pétillante. Qui a apporté un goût iodé en plat, donc la promesse était tenue. Cuisson parfaite du saumon, je trouve que le plat était sympa.
Ouais, tu l'as dit, le chef l'a relevé aussi, qu'elle était limite argentée un peu là, sa meringue, et que ça, du coup, ça donnait un aspect très gourmand. Marco, qu'est-ce qu'on en pense de Pascal?
Écoute, je sens que tu vas te réjouir et sauter sur ta chaise, mais
Je vais me retenir.
épreuve après épreuve, disons que je trouve de moins en moins d'arguments pour être de mauvaise foi et avoir des choses contre Pascal. Franchement, si tu fais vraiment abstraction du fait que il vient d'Objectif Top Chef, qu'il est apprenti, si tu fais, disons, des plats dégustation à l'aveugle, ce qui est le cas en fait de toutes les épreuves normalement, quoi. Mais il est au niveau des autres, il fait des belles choses. Là, il a peut-être l'assiette qui contenait le plus de travail. C'était peut-être pas l'assiette la plus talentueuse, mais l'assiette qui contenait le plus de travail. Il a fait plein de trucs différents. Tu sais, il me fait un petit peu penser dans cette démarche-là à Philippe Etchebest quand il fait ses qui peut battre Philippe Etchebest
Ouais.
où il va se lancer dans 14 000 préparations différentes, etc. Au début, je me dis, quand il fait son plat, je me dis, ouh, il part un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il aura la capacité de vraiment arriver à suivre tous ces trucs? Parce que quand tu lances 14 préparations en même temps, il faut faire gaffe que tes trucs ils deviennent pas trop chauds, trop froids, trop démouillés, trop cuits, trop gelés ou je sais pas quoi.
Ouais.
Et il gère, franchement, bravo Pascal, et bah dans un style différent d'Arnaud, mais moi aussi j'aime bien sa naïveté, quoi. Il a peur de rien, bah il y va, il tente sa chance, et pour l'instant ça passe, donc je suis petit à petit en train de retourner ma veste, mais elle est encore bien mise sur mes épaules.
C'est bien. Un peu comme Michael a un peu cette approche-là en première épreuve de dire bah voilà, moi je me lance dans un truc qui est osé, que je connais mal, mais j'y vais. Et puis ben si ça se passe comme je pense que c'est censé se passer, ça marche. Jusqu'à maintenant, ça lui réussit. Espérons qu'il continue. En tout cas, j'espère qu'il continue sur cette lancée. Louise. Alors Louise. C'est moi ou c'est toujours un peu les mêmes plats quand même depuis le début de la saison. C'est beaucoup d'influences de ses voyages, beaucoup de ouais je sais pas d'associations de plein de trucs. Alors là en l'occurrence c'est une meringue de maïs façon tortilla avec des algues nori, du gel de ponzu, wasabi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs Seb, je crois que c'est ce qui fait qu'elle finit dernière, c'est que il y a trop de trucs dans son plat et qu'on perd la et surtout la, ah non, c'est ça aussi, la texture de l'algue, de la, ah je vais y
Un
arriver,
meringue.
meringue, merci. Est-ce que toi aussi tu as l'impression de toujours voir les mêmes plats de Louise chaque semaine, Seb?
Et ouais, on en reparlera après pour la dernière chance, mais ouais, c'est encore là, tataki de thon, la tortilla, en fonction de ses voyages. Elle rate sa meringue, en plus elle était saoulée, ça l'inspirait pas. Franchement, elle était dans un jour sans, elle n'avait pas envie. Et ça s'est ressenti dans son plat. Elle rate sa meringue. Ah ben non, finalement, c'est peut-être pas raté, parce qu'une meringue, quand tu la sors, c'est comme les cookies, au premier coup d'œil, tu te dis, ah ben non, il manque de la cuisson, mais en fait, c'est assez
Ouais.
allergique que ça sèche. Voilà, bon, sa place est quand même. C'était un ballottage avec Lyon qu'on va voir, mais bon, sa dernière chance n'est pas imméritée non plus.
Non, Marco, Louise, est-ce que c'est un faux pas? Est-ce que c'est qu'elle était un peu pas inspirée par l'épreuve? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, je dirais que c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre un peu de Louise, c'est qu'elle a des hauts très hauts, mais elle peut avoir des bas très bas. Là, elle était sur un bas très bas, parce que dès le début, en fait, elle a vu qu'elle avait foiré sa meringue qui était le sujet du truc. Tu vois, si tu te rates sur un condiment ou un accompagnement, c'est un peu moins grave parce que tu peux à la limite l'enlever complètement ou le rectifier. Mais quand c'est l'élément central du plat, et en plus c'est pas un truc vraiment rattrapable, quoi, la meringue. Bah dans ce cas-là, ouais, elle avait un peu abandonné. Pour moi, c'est plus un faux pas. Bah, t'as fait une erreur technique. Pas de chance, c'était sur ton élément principal. Et du coup, bah après, elle a un peu fait une Logan. Je ne l'oublie pas, mais elle a un peu fait une Logan et elle était tiltée, quoi. Elle a, voilà. Mais franchement, même le reste du plat était quand même très joli. Bon, elle finit dernière, mais son assiette avait de la gueule. Et pour revenir à ce que tu disais au début, est-ce qu'elle fait pas un peu toujours la même chose? Trouve que c'est un peu sévère parce que elle a quand même, je trouve, une grande panoplie qui s'articule autour de la cuisine française, mais méditerranéenne. Mais après, méditerranéenne, c'est large, hein, parce que
Oui.
la semaine dernière, Garde Resto, c'était grec. Elle a ses influences portugaises. De ce que j'ai compris, elle a aussi des influences d'Afrique du Nord aussi. Donc, il y a plein de choses différentes. Là, c'est Amérique du Sud. Alors, c'est peut-être souvent un petit peu les mêmes éléments, mais pour moi, c'est quand même une variété certaine. Hein.
Ok, très bien. Non, c'est faire, c'est faire. Seb, tu le dis bien, elle est en ballotage face à Lilian parce que Lilian, lui, tente un truc qui, sur le papier, a l'air excellent et très technique aussi, mais malheureusement, passe pas loin du hors-sujet quand même. En l'occurrence, lui, essaye de faire une meringue givrée à l'Audrey. Et une meringue sauce soja yuzu avec en plus un petit trompe-l'œil de sushi langoustine qui était franchement hyper, enfin moi que je trouvais hyper beau au visuel et encore au goût. Alors j'ai l'impression qu'il fout des langoustines dans tout, tu vois Lilian. Je disais Louise, elle fait toujours pareil. Lilian, j'ai l'impression qu'il essaye toujours de faire des langoustines crues ou gelées. Ou il y a toujours un truc autour des fruits de mer gelés. Mais bon, sur le papier, pourquoi pas. Bon bah voilà, malheureusement le chef gagnère le lui dit, Seb, il passe un peu à côté du sujet. Le travail et le goût font qu'il n'est pas dernier. Donc, ce n'est pas une épreuve ratée non plus. Mais bon, il est sorti trop loin, on peut dire ça, Seb.
Tu flirtes avec le... Là, il était limite hors sujet. Quoi, parce que comme tu renverses son plat, tu as l'impression que c'était la langoustine, le plat fort. L'idée était super bonne parce qu'en fait, il te sort deux types de meringues. Donc, une meringue givrée qui diffère des autres. En plus, quand le chef lui dit attention, le thème, c'est la meringue. Donc, il lance une deuxième type de meringue. Il te sort une plaque énorme pour au final te sortir trois petits bouts.
Ouais.
Et les chefs, quand ils regardent la dégustation, ils disent ah, ça manque de meringue, ça manque de meringue. Mmh. Et je pense que ce qui le sauve, c'est que sa meringue, quand même, était meilleure que celle de Louise.
Sans doute.
Où le ponzu avait tout mangé, quoi.
Ouais. Bon. Donc, toi, Marco, qu'est-ce que t'as pensé de Lilian sur cette épreuve-là? Pareil, faux pas ou alors trop de prise de risque?
J'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est vrai que son plat ressemble quand même beaucoup à ce qu'il avait fait. Alors, je sais plus lequel des chefs espagnols c'était, mais l'épreuve du froid là, ça ressemblait un peu. Hein.
Adouris. Voilà.
Adouris, ça ressemblait un peu à ça, ce truc de langoustine avec des éléments givrés et tout. C'est vrai que ça ressemblait énormément. Et puis c'était langoustine avec influence japonaise. Donc là, c'était sushi. La dernière fois, c'était pareil avec j'ai plus le nom de l'ingrédient qui mettait au-dessus là, mais bon, bref. Donc ça ressemblait. Ouais, les deux plats ressemblaient un petit peu. J'ai pas tant d'avis que ça. Est-ce que c'est pas peut-être aussi un biais de sa formation cuisine de palace d'être toujours assez minimaliste et c'est vrai que quand tu compares à tous les autres là qui te mettaient des giga tuiles de meringue alors que lui il avait son truc tout petit et comme vous disiez on aurait dit que c'était plus centré sur la langoustine que sur la meringue en tant qu'élément principal. Peut-être une erreur d'interprétation sur cette épreuve.
Ouais, bon, en tout cas, voilà, il est quatrième, il esquive la dernière chance de très peu parce que Louise se rate. Et donc, on se retrouve avec une épreuve de dernière chance, Louise versus Wilfried sur le thème de la dinde en une seule bouchée avec Hélène Darroze à la dégustation. Louise qui met à peu près... Mais, tu vois, Seb, t'as dit tout à l'heure, on verra en dernière chance pour le plat de Louise. Mais là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'elle fait un peu le même plat qu'avant, mais avec un peu une tonne de trucs qu'elle trouve autour. Les fleurs, bien sûr, toujours des fleurs, très important cette saison. Il y avait une bouchée à la dinde, de citron frais brûlé, de lard, d'une sauce César à l'anguille fumée. Enfin, voilà, il y a encore plein de trucs dedans et... Bon, moi, sur le papier, j'avoue que j'aurais pas su dire laquelle allait être la préférée. L'épreuve de Louise, d'abord, Seb, je trouvais ça risqué, limite.
Ah ouais, parce que c'était une bouchée à base de blanc d'Inde. Et quand tu annonces donc l'anguille fumée, tu apportes du fumé, la feuille d'huître. Donc l'huître, tu apportes du côté iodé. Je me suis dit, où est passée la dinde, quoi. Par rapport au plat de Wilfried, je me suis dit, oula, ça doit être... Bon, après, son truc, il devait être super bon, hein. Parce que bon, Hélène, elle a failli manger la cuillère en
après,
intégralité.
Pas facile à manger, hein. T'as vu la
ouais, aussi, c'est vrai que tu as les yeux bandés et tout, mais bon, elle a envoyé du travail. Après, est-ce qu'on retrouvait le goût de la dinde? Pas sûr.
Écoute, en tout cas, ça a eu l'air de suffire face à Wilfried, donc il faisait une farce de dinde un peu façon boudin avec coriandre et curry, qui était et par-dessus qui avait rajouté du croustillant, je sais plus ce que c'était, mais des petits des pickles de champignons, bien sûr, des pickles évidemment. et où la Marco, oui, c'était, ça avait l'air peut-être plus simple, mais du coup plus centré sur le sujet, non?
Ouais, c'est vrai que ça avait l'air d'aller plus sur la base du lard. À mon avis, c'était deux choses qui avaient vraiment des orientations. Enfin, les deux bouchers avaient des orientations et des goûts très différents. Enfin, Wilfried, c'était vraiment sur le frais avec t'as ton pardon, t'as ta dinde et autour c'était des épices, coriandre, curry. Alors la coriandre, c'est quand même très particulier, hein. Je sais que moi, je fais partie des gens pour qui la coriandre, ça a goût de savon. Il y a des gens qui
Ah,
adorent ça.
j'ai ma belle-sœur qui est exactement comme toi.
Ouais, mais il me semble qu'il y a des études qui disent que c'est un gène particulier qui fait. Bon, je veux pas dire
Les
n'importe
gens
quoi.
très intelligents, sans doute.
Ouais, voilà. Mais. Eh oui, c'est vrai, ça.
Bah ouais.
Non, mais. Donc, je sais pas exactement. C'est vrai que celle de Louise, on pouvait s'y perdre. Et puis, déjà, tu vois, quand c'est de la dinde et que autour, tu rajoutes du lard de Koh Lanta, qui est. L'ingrédient de l'année, j'ai l'impression, parce que maintenant on s'en
Ouais.
tape à toutes les épreuves, donc peut-être que M6 avait acheté un stock de 850 kilos de lard Koh Lanta.
L'anguille aussi,
Mais
hein. L'anguille qu'elle met, on
oui,
en voit plein, hein.
l'anguille aussi. Mais au moins, ça nous permet de faire la fameuse association cochon d'Inde. Désolé pour ça.
Superbe, bravo.
Et ouais, bon, j'ai un peu l'impression que c'est bouché. De toute façon, c'est un peu pile ou face.
Ouais.
Et voilà. Au moins, il n'y en a pas eu un des deux qui a eu la mauvaise idée de mettre du céleri dedans.
Ouais,
Et
ouais.
bon, bah, là, ça passe pour Louise. Ouais, pour moi, c'est un peu anecdotique.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté un peu pile ou face, malheureusement, sur une bouchée, ça dépend forcément de bah que de la sensibilité du ou de la chef à ce moment-là. Et bon bah pas de chance pour Wilfried, chance pour Louise, très bien. Donc Louise qui continue en semaine suivante et nous qui continuons cette émission après le jingle pour le classement.
Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
Allez, dernière minute.
Je te demande pas on fait un enfant, non, je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas?
Il est de retour le classement micro-ondes, messieurs, dames, pour la 8e semaine, puisqu'il n'en avait pas la semaine dernière. Le classement qui est de retour avec une tendance qui continue de se prononcer. Un top 4 qui a l'air assez clair. Un bas du 4 qui a l'air de se dégager un petit peu aussi. Même si, voilà, on sent qu'au sein des groupes, certains seront presque prêt à passer de l'un à l'autre. Je l'ai dit pendant l'émission, d'abord, Arnaud est toujours le dernier de notre classement. Il est avant-dernier chez Marc et moi, mais sinon, il est dernier chez tout le monde. Bon, Seb, tu l'as mis encore dernier. Est-ce que c'est parce que... J'ai l'impression de poser toujours la même question. Est-ce que c'est parce que les autres sont trop forts ou alors il est vraiment à cette place-là?
Oh, il n'est pas dernier, il est 8e.
Ouais. Ouais,
Après, bah, tu peux
8e sur 8.
difficilement le mettre au-dessus des autres. Parce que, bah, franchement, comme on l'a dit, les quatre premiers, pour l'instant, il n'y a pas photo. Et après, derrière, après, tu vois, Pascal finit deuxième de son épreuve, Mickaël remporte la sienne. Enfin, finit
Deuxième de
deuxième,
la SIEM aussi,
lui,
ouais.
ouais. Lucie remporte la sienne. Donc, c'est compliqué de le mettre au-dessus de ces gens-là.
Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, voilà, c'est ce que je disais. Il a progressé en même temps que le reste, mais les autres ont progressé aussi. Et là où on l'aurait vu, peut-être, tu vois, je repense à des Tania, par exemple. Tania, ou même, qu'est-ce qui était parti vers le début
T'as Élise.
Élise, ouais. Même Ambroise aujourd'hui, est-ce que. Oh, je me rends pas trop
Après, il
compte
fait
là.
pas, après, il fait pas tâche dans les 8 derniers, quoi.
Non, c'est ça. Il mérite d'être encore là à cette période de l'année. Pas comme la violence. Pas comme la 7e position qui est attribuée à Lucie, que moi j'ai mis dernière et Marco aussi. Et là, Marco, c'est toi qui vas t'expliquer. Mais moi, en deux mots, Lucie, elle est bonne cuisinière, il n'y a pas de souci, mais en candidate, moi j'ai de plus en plus de mal parce que il y a plein de choses qui m'embêtent dans la manière dont elle imagine ses trucs, le fait qu'elle n'arrive pas à tenir la pression manifeste des trucs, alors qu'elle a son resto à elle et tout. Donc ça, c'est, et d'ailleurs elle le dit à un moment, elle dit putain, mais j'en ai suffisamment chié, j'ai eu un enfant, j'ai mon resto, là je suis pas capable de faire ça. Je comprends, c'est dur et tout, mais bon, j'ai peur qu'elle n'y arrive pas, et moi c'est pour ça qu'elle est à cette place-là. Marco, est-ce que c'est ton cas aussi?
Ouais, moi j'ai un autre élément. Honnêtement, Lucie a gagné deux épreuves, donc c'est plus, tu vois, quand on compare avec Arnaud, je suis pas sûr que Arnaud a gagné deux épreuves individuelles, je suis même sûr que non. Lucie a gagné deux épreuves individuelles. La première, c'était il y a très très longtemps, l'épreuve du poulet, où Élise nous avait fait vaudou là. Et à l'époque, on disait, ah ben elle a gagné, mais c'est Glendale qui lui a donné toute la recette. Et là, elle gagne encore. J'en ai déjà assez parlé tout à l'heure, mais pour moi, c'est encore une fois Glendale qui lui sauve la mise. Et en fait, tu le disais, moi j'ai un peu pas de problème avec la cuisinière. De toute façon, à ce niveau-là, c'est tous des super cuisiniers. Mais avec la candidate qui tombe dans des gros pièges, on va dire. Des gros pièges du concours, qui gère pas hyper bien ses émotions. On aurait pu penser que toute la séquence avec Alexandre Mazia, ça aurait un peu clos ce chapitre, etc.
J'avais mais même finalement oublié, non. Ça.
Ah ben si tu veux, on peut regarder la
non,
séquence.
Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Non, c'était assez gênant. Donc, et je voulais surtout aussi, moi, il y avait aussi ce truc de je veux plus qu'on considère que Arnaud est le dernier, donc je voulais plus mettre Arnaud en dernier. J'avais aussi décidé d'ailleurs que si Wilfried s'en sortait, je voulais mettre Arnaud aussi au-dessus de Wilfried, parce que je trouve que Arnaud avait montré quand même plus de choses et plus consistant et moins de faux pas que Wilfried, quoi. Donc voilà, Lucie, c'était un peu ma note punitive de la semaine.
J'aurais fait exactement comme toi, je pense. J'aurais mis Lucie, Wilfried, puis Arnaud au-dessus. Seb, chez toi, à l'inverse, Lucie, elle est quatrième. Explique-nous ton choix.
Moi, je me concentre là. J'ai fait abstraction du côté, on va dire, candidat plutôt que cuisinier. En cuisinière, je la trouve bonne. Après, c'est vrai que tu as l'impression qu'elle a son idée en tête. Et si tu as une embûche, il n'y a pas de plan de secours. Donc, c'est là que Glenville intervient. Donc, soit pour lui soutirer les idées, soit pour la rebooster. Moi, pour moi, elle ne peut pas intégrer les trois qui sont devant, mais je la vois plus forte que les quatre de derrière.
Ouais, tu l'as mise au-dessus de Sébastien quand même, donc c'est un choix fort pour un...
Ben, Sébastien, voilà, on en reparlera tout à l'heure, ça descend doucement.
C'est vrai, mais Sébastien, je dis ça surtout parce que ça a été un historique de notre haut classement depuis le début de la saison, quoi. Donc c'était ça aussi. Donc Arnaud, huitième, Lucie, septième. Au-dessus, on a Pascal qui prend la septième place. On va le mettre avec Michael qui est à la sixième parce que les deux sont assez proches en termes de points. D'ailleurs, Lucie est pas très bas sous Pascal aussi, il y a deux points d'écart à chaque fois. Donc Pascal 7ème, Pascal 6ème, Michael 5ème. Là c'est pareil, j'ai l'impression que ça y est, en tout cas dans ma tête c'est assez clair qu'ils sont derrière le groupe de tête, qu'ils en sont pas tout proches non plus, mais dans ce qu'on avait appelé le ventre mou du classement avant, ce sont les deux qui se dégagent. Ils sont encore là, donc déjà ils se dégagent par rapport à ceux qui ont été éliminés. Et surtout, voilà, Michael il remporte sa première épreuve. Pascal là il fait une très belle. Non, je me suis fait avoir aussi. Il est deuxième. Putain, c'est fou comme dans notre tête on est sûr qu'il a gagné alors que non, il est deuxième. Bref, les deux font deuxième de leur épreuve, de belles deuxième places en plus à chaque fois. Et Marco, Pascal, tu l'as mis sixième comme moi et ça c'est beau.
Ouais, bah, comme tu dis, moi je dirais même pas qu'il y a un ventre mou. Maintenant, je pense que en fait, c'est plus le ventre mou qui est devenu le bas du classement et les candidats les plus faibles qui sont partis. C'est un peu, il y a un top 4 et un bottom 4, quoi. Et donc pour moi, je les grouperais même les quatre ensemble. On voit que Arnaud est un peu décroché, donc c'est pas l'avis de tout le monde. Mais ouais, bah, ce que je disais tout à l'heure, en fait, Pascal fait pas du tout tâche. Si on fait abstraction de son CV, etc., c'est un super candidat. Hein.
Bon, on a déjà parlé de Pascal, c'est vrai. Donc revenons un peu sur Michael. Seb, Michael, donc, qui est le haut du bas du classement, si on peut dire, aujourd'hui. Et honnêtement, s'il continue sur cette lancée, après avoir quelques ratés hein, en début de saison, donc ce qui explique qu'il a dû peut-être ramer pour grimper des échelons de classement, mais aujourd'hui, ouais, je le vois au-dessus des autres, et s'il continue d'avoir ses bons succès et d'enchaîner comme ça, bien boosté aussi par Etchebest, hein, qui le fait bien travailler, eh ben, peut-être qu'il peut intégrer le haut du classement. Qu'est-ce que t'en penses, Seb?
Ouais, bah, voir devant, notamment Seb.
Ouais.
Après, bon, les trois, franchement, le podium, il va être dur à bouger, mais c'est clair qu'il fait figure de favori par rapport aux autres, parce qu'au final, il gagne la gare des restos, là, il finit deuxième, il avait fait son kebab de céleri, il y a une autre épreuve aussi, où il a décroché une première place, il me semble. Bon, il a eu deux beaux ratés, où il est complètement passé à travers, c'est ce qui peut le faire pencher, mais oui, c'est le, on va dire, c'est le haut du panier de la deuxième vague, quoi.
Ouais. Donc,
je sais pas. Je sais pas vous, mais moi je trouve. En fait, j'ai un espèce de bon petit feeling avec Mickaël qui me rappelle un petit peu dans la vibe, on va dire, dans le feeling que j'ai, qui me rappelle un peu Guillaume Pape. Je sais pas si vous vous souvenez, qui avait fini finaliste contre Samuel Albert en saison 10. Et c'est un peu ce candidat, ouais, voilà, qui paye pas de mine, mais qui est un peu un bon charbonneur, etc., qui est assez créatif, et toutes les émissions au début, on se dit, bah, à un moment il va y passer, à un moment il va y passer, et finalement c'est plutôt les autres candidats un peu plus réputés, renommés, qui tombent. Voilà, j'ai un peu cette bonne vibe sur Mickaël, où je trouve que il est possible qu'il aille loin parce qu'il a des bonnes idées, il a la bonne mentalité, et ouais, c'est un candidat qui me plaît, hein.
Tu sais que moi, avec Guillaume, je m'étais même dit à l'époque, je revois très bien, je m'étais dit comme toi au début, bon, bah, il va finir par y passer parce qu'il est moins bon que les autres. Et alors, non seulement les autres étaient éliminés, mais lui, j'ai trouvé qu'il avait eu une courbe de progression à partir de la deuxième moitié de la saison, un truc de ouf. Et où limite, à la fin, je me suis dit, ah, bah, en fait, il va gagner. C'est même pas qu'il, c'est même pas que les autres sont éliminés, c'est que lui, il est vraiment plus fort. Et arrivé en finale, il tombe sur Samuel, qui, à l'époque, était vraiment le meilleur candidat probablement de la saison et qui avait gagné. Que c'est, d'ailleurs, c'est bien vu comme transition, parce qu'il y avait Samuel dans le jingle juste avant ce classement. Voilà, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des petites vibes. Là où Sébastien, on avait dit, était le Camille Delcroix de la saison, eh ben, on a le Guillaume Pape de la saison. Ça me va assez bien. Donc voilà pour le bas du classement, pour les quatre du bas du classement, en l'occurrence Arnaud, Lucie, Pascal et Mickaël. Et on monte avec. Alors, Sébastien, dans cet ordre, je vous le donne, et comme ça, après, on en parle. On a Sébastien, qui est quatrième, qui est un tout petit peu décroché par rapport aux autres. Lilian, qui est troisième. Et on a Thibaut et Louise à égalité. La différence, c'est que Thibaut, il a trois premières places parmi les cinq de nos classements. Et Louise n'en a que deux. Donc, logiquement, on peut dire que Thibaut est au-dessus, si on fait une pondération en fonction des classements. Thibaut est au-dessus de Louise dans notre classement global. Donc, Sébastien 4, Lilian 3, Louise 2, Thibaut 1. Seb, tu vas pouvoir défendre ton homonyme, mais. Enfin, en l'occurrence, non, tu vas plutôt le descendre, parce que tu l'as mis encore plus bas. Mais est-ce qu'on a le sentiment qu'il commence à être décroché un peu par le top 3?
Ouais, voilà, c'est ça. Tu sens qu'il a une bonne volonté, qu'il essaye, mais qu'il n'y arrive pas. Donc on va voir avec, du coup, avec le changement de brigade, peut-être que Paul va arriver à travailler sur d'autres aspects pour essayer de lui faire passer ce palier, parce qu'il reste quand même quelqu'un de talentueux, qui peut viser la troisième place.
Mais tu fais bien de le rappeler, je suis nul, j'ai complètement oublié de le dire. Évidemment qu'il y a eu cette redistribution des candidats, et qu'à la fin, Philippe Etchebest ayant encore ses trois candidats de début, il a fallu en donner un à Paul, qui n'en avait plus qu'un, et il a choisi Sébastien. On peut juste dire un mot maintenant. Alors, tu viens de dire effectivement que toi, tu trouves que c'était en tout cas que ça pouvait marcher. Marco, est-ce que tu trouves logique le choix de Etchebest de se séparer de Seb?
Non, ça m'a étonné, parce que sur ce qu'on voit, on va dire, sur le talent brut, on a l'impression qu'il a un peu plus de technique, un peu plus de justesse, justement, que Mickaël et que Pascal. Alors, Pascal, j'étais sûr qu'il allait le garder, parce que.
Est-ce qu'il n'est pas obligé contractuellement, ce que je me suis demandé?
Ah, je sais pas, mais bon, je pense.
Ah non, non, parce qu'il y a déjà eu des, il y a déjà eu, comment elle s'appelait,
ben Charline, l'année dernière, il avait pas bazardé, je crois.
Non, elle a été éliminée.
Non, elle a été éliminée. Alexandra, saison 10, je sais plus. Il y a eu Gracien, non, c'est Gracien saison 11. Il y avait une fille qui avait gagné. C'est celle qui s'est fracassée à la mandoline, là. Elle sortait pas d'Objectif Top Chef? Et elle était passée chez Hélène. il me semble.
J'ai plus le
ah, je
truc
sais
en
plus
tête.
là.
Bah, je vais fouiller pendant qu'on continue de débattre, mais bon, il me semble qu'il n'est pas obligé contractuellement. Moi, je me suis dit contractuellement, il est obligé de garder Pascal et que Michael a une tellement bonne dynamique. Et du coup, ça me semblait assez logique, au vu de la dynamique aussi de Seb, de le laisser partir sous couvert de il va s'envoler tel un papillon chez Paul Perret. Quelle fausse excuse, c'est juste que tu penses que tu vas pas gagner avec lui, c'est tout. Et Chavez, tu n'as rien à foutre, non? Enfin, Marco, il a fait semblant pour la télé, non?
Ouais, bah, après, il est obligé de trouver des. Il va pas le descendre en disant je pense que t'es le plus nul, donc barre-toi. Mais du coup, si un chef comme le chef Etchebest pense vraiment que Michael a plus de chances de gagner que Sébastien, bah, c'est étonnant, je trouve, d'un point de vue téléspectateur. Mais du coup, ça veut dire aussi que Michael est un sacré cuisinier. Donc ça renforce peut-être ce qu'on disait il y a 2 minutes sur Michael. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, quand on entend parler le chef Etchebest, il nous en parle en disant « Ouais, c'est le maître des cuissons, il peut faire plein de trucs et tout, donc il a l'air assez enthousiaste ». Mais pour revenir à Sébastien, oui, assez étonnant. Moi, je le vois bien avec le chef Perret. Je pense que ça fait une super association. De toute façon, je vois tout le monde bien avec le chef Perret parce que j'adore sa manière de coacher les équipes. Aujourd'hui, Sébastien, c'est vrai qu'il est un tout petit peu décroché par rapport au top 3, alors qu'il a été à un moment top 1 du classement. Pour moi, c'est plus qu'il est passé de ce stade de il fait des trucs très académiques à maintenant il pousse un peu dans l'extrême opposé. Et du coup, bah là maintenant il faut qu'il revienne un petit peu sur un entre-deux. Donc moi je suis pas tant inquiet parce qu'on voit qu'il fait toujours des choses créatives, bonnes, etc. C'est juste là sur les 2-3 dernières semaines, quand il a essayé de pousser un truc, bah, il s'est retrouvé à acheter un Stormtrooper et notre ami François-Régis Gaudry a pas compris. Tu vois, mais à mon avis, voilà, ça va revenir dans l'ordre des choses. Donc moi je suis pas inquiet pour Sébastien et j'ai hâte de le voir avec Paul Perret.
Je suis muté depuis tout à l'heure, c'est malin. Je disais que je suis d'accord avec toi sur le fait que tout le monde peut réussir avec Perret dans ma tête, dans la mesure où il a cet univers créatif qui est capable d'aller comprendre beaucoup de choses de ce que les candidats veulent faire et de les orienter avec ses connaissances assez larges de plein de choses culinaires. Donc je suis d'accord avec toi. Entre temps, j'ai retrouvé, je faisais mes petites recherches, je confonds. Donc c'est Camille qui avait gagné, Camille Maury, une femme, ouais, hein, pas Camille Le Goat. C'est Camille Maury qui avait gagné Objectif Top Chef saison 4, donc elle avait fait la saison 10 de Top Chef et elle était rejetée chez Etchebest toute l'émission. Je confonds avec Alexia qui avait été demi-finaliste et qui était notre amie à la mandoline. Voilà, donc elle était bien passée chez Hélène Darroze et ensuite chez Jean-François Piège. Donc le classement, on a dit Sébastien 4e et devant Lilian lui s'accroche au podium, donc 3e. Il est assez proche des deux duos. Là, Seb, pareil, il rate son épreuve, mais on sent qu'il y a un vrai potentiel derrière.
Ouais, bon, très bon cuisinier. Moi, pour expliquer ma logique, moi, la dernière fois, j'avais mis Thibaut hors du podium parce que je sentais que ça commençait un petit peu à chuter, mais il lui fallait une épreuve pour remonter, pour récupérer sa place. C'est ce qui s'est passé. Il a mis tout le monde d'accord, donc pour moi, il mérite sa première place. Et après, automatiquement, les deux autres qui étaient sur les deux premières places redescendent d'un cran.
Ouais. Donc là, effectivement, tu as mis Thibaut premier et Lilian deuxième chez toi. Il est troisième chez toi. Et deuxième chez Ben. Il est quatrième chez Marco. Mais Marco, on sait bien qu'il est d'élu. deuxième chez moi et deuxième chez Raphaël. Voilà. Lilian, pourquoi il est si bas d'ailleurs chez toi, Marco?
Parce que je trouvais que la semaine passée, il était rentré. Attends, si je regarde, il est.
Bah, la semaine dernière, il. En fait, il y a.
Il est deuxième.
Ouais. Et puis, de toute façon, ah oui, non, il n'y a pas de classement la semaine d'avant parce qu'il y avait la garde.
Non, mais là, moi, je sais pas. Moi, il a raté son plat. Je trouvais que Sébastien. En fait, moi, je voulais avoir Sébastien dans le top 3 parce que je pense toujours qu'il est top 3. Je voulais aussi récompenser Thibaut parce qu'il a fait une super épreuve, mais je voulais pas le mettre trop. En fait, il y en a 4 qui me plaisent et il en fallait un qui soit dehors. Et je me suis dit, bah, des 4, je trouve que celui qui a un peu le plus raté, sachant que je voulais Louise absolument dans le top 3, parce que moi j'aime bien les candidats qui pètent des plombs. Toi, c'est mon truc avec Logan, je les veux absolument dans le top 3. Et donc du coup, c'est Lilian qui en a fait les frais, mais encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a le top 4, le bottom 4, et bon, voilà, faudrait qu'on fasse des podiums à 4 places.
Si ça existe, j'allais dire au judo.
En judo, non.
Ouais, au judo, tout à fait, avec les repêchages, il y a toujours deux médailles de bronze. Donc Lilian troisième, et alors Thibaut et Louise égalité en tête, avec Thibaut ayant plus de première place qui est devant. Messieurs, vous avez tous les deux un numéro un différent. Seb, tu as Thibaut, Louise, Marc, tu as Louise. Pour faire plaisir à notre graphiste bed, je vais mettre le jingle de la bagarre et derrière vous allez défendre vos candidats. C'est parti, je mets le jingle.
C'est parti. Let's get ready to rumble.
C'est vrai qu'il était cool ce générique, j'aurais dû le remettre. Seb, Thibaut est ton numéro 1. Pourquoi est-il numéro 1 devant Louise? C'est à toi.
Parce que je pense qu'il est plus talentueux, qu'il lui manquait un déclic pour passer ce palier et pour s'affirmer comme le grand favori qu'on annonce depuis le début de cette saison. Il l'a prouvé hier, j'espère qu'il va continuer sur la suite.
Marco, pourquoi Louise est numéro 1 devant Sébastien et devant Thibaut chez toi ?
Que Louise a plus de références sur toute la saison. Elle s'est loupée cette semaine sur une erreur technique. Et encore une fois, vu qu'il n'y avait qu'une épreuve avant d'aller en dernière chance, du coup, c'était rédhibitoire. Mais pour moi, voilà, elle a plus de références. Et ce que je disais tout à l'heure, elle a eu beaucoup plus de hauts, très hauts, que Thibaut, pour lequel, finalement, c'est sa première épreuve référence, à part l'épreuve de qualification tout au début. Quoi. Donc,
c'est vrai.
Donc calmons-nous sur Thibaut, les amis.
Je suis obligé de rejoindre Sébastien parce que moi j'ai mis Thibaut également premier, mais parce que chez moi il était toujours assez bien classé, voire très bien classé, et là cette victoire cette semaine me force à lui reconnaître cette réussite là où Louise j'ai toujours été un peu plus mitigé. Je reconnais Léo, mais je suis plus sévère, je crois, sur les bas aussi, et donc avec le raté de cette semaine je l'ai redescendu un peu, et puis surtout je voulais Lilian deuxième, donc j'ai mis Louise en 3. Voilà pour notre classement, je vous le redonne, il sera remis évidemment sur nos réseaux sociaux, mais dans l'ordre du bas en haut, Arnaud, Lucie, Pascal et Michael pour le bas, le 4 du bas, Sébastien qui s'accroche au top 4, Lilian en 3e position, Louise et Thibaut sur les 2e et première marche du podium. Voilà messieurs, on a fait le tour de cette émission. Bon, on a réussi à en tirer plein de choses, alors que sur le moment, moi, c'était pas forcément ma soirée idéale. C'est-à-dire que avec coupure d'internet chez moi, donc du mal à suivre l'émission, plus coupure de télé du coup, plus le match du Bayern de Munich qui se passait mal. Enfin bref, tout allait mal. Mais heureusement, il y avait Top Chef et heureusement, il y avait le débrief avec vous pour nous changer les idées. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @microondcast sur Twitter, @microondpodcast sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir nos classements quand ils seront publiés grâce à notre graphiste Ben, qu'on remercie encore et qui nous fait les beaux visuels à chaque fois. Seb, merci beaucoup.
Toujours un plaisir.
Marco également, la connexion a tenu, bravo.
Et oui, bravo mon opérateur. Et je ne ferai pas de pub.
Et tu n'as provoqué aucun accident. Donc ça, c'est
à moins qu'on ait une sponsor. Oui, aussi. Donc,
ah non, la sponsor pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc tu oublies. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Twitter. Voilà, allez voir si vous voulez vraiment nous retrouver, c'est facile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour. Est-ce que c'est la semaine prochaine où il y a le décalage? Non, c'est la semaine d'après.
C'est ça.
Voilà. Donc la semaine prochaine, on sera encore là chez vous vendredi matin. La semaine d'après, on verra comment on s'organise. On vous tiendra au courant puisque Top Chef sera décalé au jeudi 21 et pas au mercredi 20 avril. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous, bon week-end et surtout bon appétit. Ciao, ciao.
Il mange mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi.
Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadeau.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
No.
On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Média, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les deux semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby. Barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir. C'est dans Occupation que ça se passe, un mercredi sur deux, sur toutes les plateformes de podcast habituelles.